L'élection de gouverneur et vice-gouverneur de nouvelles provinces, la CENI a publié depuis ce vendredi matin la liste définitive des candidatures retenues. Rencontre d'échange hier jeudi à l'hôtel Sultani à Kinshasa entre les conseils supérieurs de l'audiovisuel et de la communication, c'est ça qu'en sigle, et les patrons de presse. D'après les présidents de cette institution d'appui à la démocratie, la RDC est au seuil de la période électorale. L'apport des patrons de presse permettrait d'accompagner la CENI et le CESAC dans les processus en cours pour des élections crédibles et apaisées. Tels sont les thèmes de ce soir dans Tribune de la Presse. Nous avons autour de cette table Innocent Kaboukala, il est journaliste indépendant évoluant à Kinshasa. Bonsoir Innocent Kaboukala.
Bonsoir Guy Mathé.
Élisée Odia, journaliste à Congo Web Télévision, émettant de Kinshasa. Bonsoir Élisée Odia.
Bonsoir Guinaté.
Et Baudouin Saïle Mbalanga, éditeur responsable du journal La Chopo, qui paraît à Kinshasa et distribué dans toute la partie est de la RDC. Bonsoir Monsieur Baudouin Saïle Mbalanga.
Bonsoir, 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 bonsoir tout le monde. Bonsoir aux auditeurs qui nous suivent à travers la République.
Bienvenue à tous dans cette émission. Avant d'aborder ces débats, Alain Hirung revient sur certains sujets qui ont défrayé la chronique cette semaine. On l'écoute dans cette revue de presse qu'il nous propose.
Bonsoir. En début de semaine, la réunion de prière pour le dialogue organisée samedi 5 mars à Kinshasa par les confessions religieuses sans l'Église catholique a fait la une des journaux quinois. Confessions religieuses et société civile dédient la RDC à Dieu, titre la référence plus. Le journal note que sous une pluie battante, le stade des martyrs a été pris d'assaut samedi 5 mars par plusieurs milliers de chrétiens qui ont prié pour la paix et consacré la République démocratique du Congo à Dieu. Le journal révèle que la pluie est tombé contrairement aux prévisions météorologiques de la veille. L'observateur a vu plutôt une pluie fine qui est tombée le jour J au bon moment et qui a arrosé non seulement le terrain mais également tout ce qui était rassemblé au stade des martyrs pour une cause juste et de tirer la réunion de prière pour sauver le dialogue un succès fou. Élection des gouverneurs des nouvelles provinces. De son côté, le Pharan Corps s'interroge sur le statut des gouverneurs à élire dans les 21 nouvelles provinces. Seront-ils des gouverneurs des partis ou du peuple? Rappelant que l'électorat du candidat gouverneur et vice-gouverneur de province est exclusivement constitué des députés provinciaux. La tempête des tropiques titre à la une que les députés provinciaux sont sous forte pression. Le journal précise que les uns ont été convoqués à Kinshasa pour des consignes de vote, d'autres sont en train de recevoir des injonctions dans leurs entités de la part des instances de la MP en déplacement. Célébration de la journée du 8 mars. Le potentiel exploite pour sa une le message du secrétaire général de l'ONU qui a déploré la souffrance des femmes qui vivent dans les régions pauvres du monde. Pour y remédier, Ban Ki-moon estime qu'il faut donner aux femmes les moyens de devenir des agents du changement. Titre le journal. À Kinshasa, la journée de la femme a été célébrée dans la prière titre l'avenir. Un culte écuménique a été organisé dans l'église du centenaire protestant pour dédier à Dieu toutes les activités du mois de la femme qui seront organisées à travers toutes les provinces du pays, renseigne ce quotidien. Sur un autre sujet, à savoir les tueries dans le Nord Kivu, pour terminer, le Phare se fait l'écho du plaidoyer mené par le président de l'UNC qui craint la somalisation de la région si tous les groupes rebelles entrent en jeu. Vital Kamerhe tire la sonnette d'alarme, titre l'avenir. Les accusations réciproques entre les Nandais et les Hutus sont de nature à allumer un feu si des mesures ne sont pas prises à temps par le gouvernement central, prévient le journal.
Merci Alain Hirung. Un petit commentaire, Élisée Odia. Je rappelle que vous êtes journaliste à Congo Web Télévision émettant des Kinshasa. L'actualité, c'est aussi la célébration de la Journée internationale de la femme le 8 mars dernier, avec comme thème « Appliquer la parité homme-femme maintenant dans la paix pour le développement durable d'ici 2030 ». Votre commentaire?
Au niveau de Kinshasa, je crois qu'il y a maintenant cette tendance à tout ramener au niveau des églises organisées. Je ne sais pas s'il y en a en panne d'initiative pour essayer de parler ou de mieux sensibiliser sa femme par rapport à ses droits. Mais là, c'est juste un constat. Mais je crois que c'est un thème qui tombe à point nommé pour le pays. Les femmes en ont besoin. Une chose est d'avoir un thème. Une autre, c'est de pouvoir faire en sorte que ces thèmes-là, que chacune des femmes et des hommes d'ailleurs, puissent s'imprégner de cela pour qu'on ait des résultats escomptés. ICC qui ne suit pas toujours, on est là habitué à des thématiques d'année en année et on n'a pas le temps d'évaluer ce qui a été fait l'année, les années précédentes pour savoir comment pourrions-nous aborder la situation des années qui sont en train de venir. Ce qui fait qu'on voit que la situation de la femme est en train de stagner, de faire du surplace, ou pire pour le cas de notre pays, de reculer quand on voit par exemple la représentativité de la femme au niveau du Parlement, au niveau du gouvernement. On se dit que bah, cette femme et la parité a du pain sur la planche ici en République démocratique du Congo et qu'on est très loin et bien loin de compte, très très loin de 50-50 en tout cas.
Merci Nosa Kabukala, journaliste indépendant évoluant à Kinshasa. Vous venez de suivre Madame Élisée Odia qui estime que ce thème tombe à point nommé et elle affirme qu'une chose c'est d'avoir un thème et une autre c'est de voir comment faire pour que l'on puisse, n'est-ce pas, obtenir les résultats.
Oui, c'est ce que j'ai suivi, mais je n'ai pas entendu qu'est-ce qu'il faut faire pour que nous ayons les résultats escomptés. Est-ce qu'il s'agit de poser quel geste et qui doit faire, qui doit être aux commandes de tout cela? Ça, je n'ai pas peut-être entendu, mais pour la plupart des cas, moi je récuse une chose, c'est que chaque année, il y a toujours un thème qu'on trouve pour pouvoir parler de la situation de la femme. Mais je voudrais peut-être me référer à un penseur, à un écrivain africain qui dit souvent qu'un tigre ne chante pas sa tristitude, il saute sur sa proie et puis la dépouille. Donc moi je crois que les femmes ont plutôt besoin de s'affirmer comme telles et qu'au lieu de se contenter des déclarations, parce que pour la plupart des cas, et d'ailleurs le cas échéant c'était le secrétaire général des Nations Unies qui faisait cette déclaration pour dire que l'implication de la femme dans le processus de paix, c'est une déclaration, mais dans cette déclaration il n'y a aucune contrainte. On ne sait pas à qui est-ce qu'on s'adresse pour pouvoir faire réaliser cela.
Baudouin Saïd Balanga, éditeur responsable du journal La Chopo qui paraît à Kinshasa et distribué dans toute la partie est de la RDC. Innocent Kabukala estime que les femmes doivent s'affirmer au lieu de se contenter, n'est-ce pas, des simples déclarations.
Encourageons les mamans parce que les mamans bougent, c'est ce que je vois. De la corporation, la jeune fille qui est à mes côtés se défend bien. Quand je suis arrivé ici, j'ai dit que où est Paulette, et elle m'a dit que Paulette se porte bien, parce que je connais de jeunes dames qui s'affirment et qui continuent à s'affirmer. Mais la parité ne veut pas dire qu'il y a deux, la parité veut dire que quelque part on sent la mouvance venir, on sent les jeunes filles au lieu de dormir sur le laurier parle à haute voix, s'exprime à haute voix. Tout à l'heure, on échangeait avec la fille. Est-ce que la politique...
Madame Élisée Odia.
Avec Madame Élisée Odia. On discutait, on échangeait. Vous l'avez dit, est-ce que la politique vous intéresse? Oh non, j'aime plutôt être du côté de la rivière. C'est-à-dire que là où elle est, elle s'affirme, elle avance, on applaudit. Ils n'ont pas honte d'applaudir une jeune dame qui s'affirme, franchement. Moi, je dis, parce que j'ai autant de filles chez moi. J'ai une dizaine qui sont sorties dans mes entrailles et qui sont qui Ali Fassé qui fait le journalisme, qui est ma secrétaire au bureau, ça il le dit, c'est ma fille aînée, qui a 33 ans, qui est ma secrétaire. Je n'ai que des filles à la rédaction, sauf un garçon qui coordonne, vous comprenez? Moi j'encourage, je demande aux jeunes dames, aux jeunes filles de s'affirmer, contrairement à ce que j'ai suivi hier à la radio. Hein, j'ai suivi une émission qui est passée dans une radio périphérique où j'étais en train de discuter autour des comportements un peu inciviques de certaines filles, pas toutes, hein, et qui le soir à côté de Kalamu là-bas font de n'importe quoi. Que fait le bourgmestre? Que fait l'autorité établie pour arrêter l'hémorragie? Mais globalement, j'apprécie la ténacité des jeunes dames, des jeunes filles qui s'affirment là où elles sont.
Merci. Élisée Odia, l'actualité, c'est aussi cette proposition de la société civile Force Vive de Kinshasa qui demande au gouvernement et au Parlement de saisir la Cour constitutionnelle pour que celle-ci constate à travers un arrêt l'impossibilité d'organiser l'élection présidentielle dans les délais constitutionnels. Comment vous réagissez par rapport à cette proposition de la société civile de Force Vive de Kinshasa?
Ça me laisse un peu perplexe. Je me dis, on parle là de la société civile. Dans la Constitution, il y a des modalités pour qu'on puisse saisir la Cour constitutionnelle par rapport à un sujet ou par rapport à un autre. Je me dis, mais si c'est vraiment la société civile, pourquoi elle-même ne mène pas l'initiative? Pourquoi recourir au gouvernement? Et également, je sais pas, au président, l'un des présidents de deux chambres. Je crois que si c'est la société civile, elle doit demeurer apolitique de bout en bout. C'est son initiative. La Constitution leur donne ce droit-là. Et dans une matière assez pas controversé. On sait que quand tu prends une position pour l'un contre l'autre, c'est toujours assez difficile. Mais cette société civile, à mon avis, par rapport à cette idée qu'elle vient de mettre, aurait dû aller jusqu'au bout. Essayer de mener des initiatives, parce qu'on a vu des gens mener des initiatives, et elle, en tant que société civile, si elle estime que l'idée est, en soi est bonne pour le pays, pour la République, elle aurait dû faire ce pas-là, mener des initiatives, mener des actions pour enfin en mener sa revendication auprès de la Cour constitutionnelle au lieu de renvoyer la balle. C'est, à mon avis, une façon pour elle de se dédouaner. De dire que si on arrivait au bout du chemin et qu'il n'y avait pas de solution, elle aurait dit « moi je vous avais prévenu, non, on doit s'assumer ». L'idée, elle est peut-être bonne, mais je crois que c'est la méthodologie qui me laisse un peu perplexe. Voilà.
Et dans ce cas-là, l'idée pourrait être bonne, mais la société civile doit demeurer apolitique. Elle devait, en principe, par rapport à ce genre de matière, mener la démarche seule, au lieu de mettre les tout sur, n'est-ce pas, les épaules des institutions politiques comme les gouvernements ou les parlements.
Bon, moi, ce qui m'inquiète, c'est d'abord, je ne sais pas pourquoi est-ce que la société civile prend-elle ce risque de se prononcer de cette manière-là. Je ne vois pas exactement, parce que tout le problème, c'est que dans une telle démarche, il y a des institutions et des canaux bien déterminés pour pouvoir y arriver. On sait que, du point de vue de la Constitution, les élections devraient se tenir après un échéancier bien déterminé dans le cas d'espèce. C'est que au 28 novembre de l'année en cours, on devrait passer aux élections présidentielles. Mais il me semble qu'il y a quelques embûches sur terrain et qu'il est difficile qu'on puisse y arriver. Mais il y a des institutions, je crois, averties, qui sont là, qui peuvent effectivement entamer une telle démarche. Parce que déjà, la CENI elle-même, qui est l'organe principal dans l'organisation de ces élections, en lançant l'appel d'offres, on a suivi le message, c'est que déjà, mathématiquement, nous ne sommes pas à mesure d'organiser les élections d'ici là. Mais on a aussi appris que la MCENI a dit que si elle est arrivée à ce stade-là, c'est parce que le gouvernement avait montré des signaux forts pour dire qu'il n'y aurait pas assez de moyens pour pouvoir faire ce travail-là. Et par conséquent, ces élections devaient être ramenées à plus tard et non plus au courant de cette année. Ça devient difficile, effectivement. Mais est-ce qu'elle appartient à la société civile et encore qu'il faut la qualifier ? Je ne sais pas, mais les voies, et le plus recommandé, c'est que au niveau des institutions, il y a des institutions qui ont qualité pour pouvoir initier ces genres de choses.
Merci, Saïlé Mbalanga. Il y a des institutions qui sont habilitées, n'est-ce pas, pour mener une telle démarche. Il n'appartient pas, n'est-ce pas, à la société civile de prendre une telle initiative. Mais vous ne pensez pas que le mérite de cette proposition de la société civile est celui, n'est-ce pas, d'interpeller toute la société, n'est-ce pas, dans son ensemble, sur les dangers, n'est-ce pas, qui pointent à l'horizon, sur les chaos qui guettent les pays, et si, d'ici là, les élections ne sont pas organisées dans les délais constitutionnels.
Cher confrère, le chaos, non, hein, ça c'est l'extrême, le chaos, non. J'en ai vu de toutes les couleurs, le chaos dans ce pays, depuis des temps, depuis des lustres. La société civile est composée des citoyens congolais, des citoyennes congolaises. Elle a l'attitude de proposer une telle démarche au niveau des institutions républicaines, quitte à elle de finaliser la démarche. Je ne trouve rien d'inconvénient dans tout ça. Mais disons ceci, nous sommes à la croisée de chemin, nous avons des problèmes sérieux pour obtenir les élections dans ce pays. La CENI a dit, moi CENI, j'ai des problèmes techniques. Vous, gouvernement, vous avez des problèmes politiques. Organisez-vous à votre niveau. Moi, je m'organise à mon niveau. Voilà la différence. C'est pour ça que nous disons, ce pays nous appartient tous. Laissons le problème de l'opposition, de la mouvance. Voyons le bébé Congo qui est grabataire, si je peux m'exprimer ainsi. Vous avez des thérapeutiques de choc. Administrons au bébé Congo pour qu'il se remette sur les lits, pour qu'il essaie d'avancer, vous comprenez? Je suis en train de féliciter la société civile, l'initiative prise par elle, et maintenant je demande au gouvernement de la République de bosser dur pour que le dialogue s'éteigne enfin. Nous sommes déjà au mois de mars. Merci. Le dialogue va s'éteindre quel mois, s'il vous plaît? Allons de l'avant pour qu'il n'y ait pas de casse, pour qu'il n'y ait pas de
chaos.
Pour qu'il n'y ait pas de chaos. Nous ne voulons pas de chaos. Moi, mon frère, excusez-moi. En 64, il y a eu les rébellions chez moi, etc. J'ai vu comment on tue quelqu'un. Je ne veux pas qu'il y ait des chaos dans ce pays. Ça, c'est mon pays. Je l'aime bien. Et j'ai étudié dans ce pays. J'ai grandi dans ce pays. Je travaille dans ce pays. Je ne veux pas de chaos. parlons autre chose sauf le chaos. Voilà.
Merci. On souhaite que cette situation des 64 ne puisse pas se reproduire en RDC. Nous passons à notre premier thème, élection des gouverneurs et vice-gouverneurs des nouvelles provinces. La CENI a publié depuis ce vendredi matin la liste définitive des candidatures retenues. D'après les rapporteurs de la centrale électorale Jean-Pierre Kalamba, cette publication fait suite à la séance délibérative de l'Assemblée plénière de la CENI. Et ce, en conformité au rapport des 6 cours d'appel concernés qui avaient réceptionné les différents recours. Jacques-Yves Molima pour les détails.
Ils sont 66 candidats retenus pour la prochaine élection des gouverneurs et vice-gouverneurs de 21 nouvelles provinces. Et ce, au lendemain de la fin du traitement des recours dans les différentes cours d'appel, notamment les cours d'appel de Bandundu, Équateur, Kassai-Occidental, Kassai-Oriental, Kisangani et Lubumbashi. En effet, des 41 recours au total qui ont été déposés, 10 ont été jugés recevables et fondés, 18 recevables mais non fondés, 10 irrecevables et 3 cas de désistement ont été constatés. Ainsi, le nombre de dossiers de candidature varie entre 1 et 7 dossiers dans les différentes provinces. La province de la Mongala vient en tête avec 7 candidats, suivi du Haut-Katanga 6, Nord-Ubangi-Lekwilu 5 candidats, Ituri, Kwango, Sud-Ubangi et La Tchopo 4 candidats. Les provinces de l'Équateur, Olomami, Maïndombe et La Tchapa alignent 3 candidats, tandis que le Kassai, Kassai-Oriental, Otuele, Lualaba et le Tanganyika, 2 candidats. Enfin, la Lomami et le Kassai Central n'alignent que des candidatures uniques. Il faut souligner que la CENI, dans sa publication provisoire, avait retenu 76 candidatures. Mais avec cette publication définitive, émanant des arrêts de cour d'appel, il y a eu une diminution d'au moins 10 dossiers de candidature.
Merci Jacques-Yves Molima, Innocent Kaboukala, journaliste indépendant évoluant à Kinshasa. La CENI vient de publier la liste définitive des candidats gouverneurs et vice-gouverneurs de nouvelles provinces. Vous venez de suivre ce reportage de Jacques-Yves Molima. Sur 41 recours, 10 sont jugés recevables et fondés, 18 recevables mais non fondés et 10 irrecevables. Votre analyse?
Oui, bon, là on ne va pas rentrer dans le fond de la question du point de vue de l'appréciation technique par rapport à ça, mais c'est plutôt le contour autour de ces élections de gouverneurs. En tout cas, nous avons regretté énormément tout ce que l'on a enregistré comme écueil autour de cette affaire des élections de gouverneurs. On a senti que la démocratie a reculé fortement dans ce pays. Et je me pose la question, comment on a pu penser politiquement passer, il n'y a pas 6 mois à ce que je sache, depuis l'avènement des commissaires spéciaux, pour qu'on en vienne au gouverneur des provinces. Alors qu'on savait très bien que lorsqu'on a créé ces nouvelles provinces, nécessairement, il y avait une espèce d'incommodité. D'un côté, vous avez des commissaires spéciaux, et de l'autre, pour les 3 provinces qui étaient restées avec des gouverneurs. Et c'était quand même pas très aisé. Mais la logique semblait tenir un peu lorsqu'on a dit que cela est venu à la suite des arrêts de la Cour constitutionnelle à l'époque, parce qu'il y avait cette carence qui était constatée. Mais d'un autre temps, sur les faits, il y avait une difficulté, parce que vous avez... Mais d'où viennent d'abord ces électeurs? Ce sont des députés provinciaux qui sont hors mandat. Et on a encore divisé ces députés pour les répartir sur l'ensemble des provinces qui ont été créées. Par exemple, pour la province du Katanga, ex-province du Katanga, s'il faut m'exprimer ainsi, vous avez des députés qui ont été pratiquement émiettés en termes de nombre. Et ça devenait très très facile pour eux, vous avez suivi, combien ont reçu soit des injonctions, soit de menaces pour pouvoir aller à ces élections et trouver des candidats tels que la majorité l'avait préconisé. Et vous estimez que dans ces contextes-là, on peut encore parler de la démocratie et on peut donner du crédit à ces gouverneurs qui vont être élus, et d'ailleurs pour combien de temps? C'est avec raison. Lors de notre revue de presse ici, j'ai suivi un de nos confrères qui parlait de gouverneurs pour le peuple ou de gouverneurs pour des partis politiques. Donc, quelque part, on sent que, en tout cas, c'est des gouverneurs qui ne vont pratiquement rien faire, qui ne vont pas peser, qui ne peuvent en aucun cas marquer la population, du moins du point de vue de l'administration.
Elisa Oudia, vous venez sur Innocent Kaboukala, qui pense que la démocratie a beaucoup reculé en RDC, et il relève, n'est-ce pas, la légitimité des députés provinciaux.
Ça dépend de ce qu'on entend par démocratie. La démocratie, c'est un terme assez complexe également, mais je crois que l'une des parties de la démocratie, c'est quand le peuple est appelé à disposer de lui-même par un processus établi, par des mécanismes établis, prévus. Et je crois que par là, je dis pas regret de la démocratie, ça je ne sais pas, mais ce qui a fait, il y a un sérieux problème, ça on le sait. tout le monde a eu à le décrier, qui va voter la qualité, la légitimité des personnes, des députés provinciaux. Là, c'est un vieux débat qui date d'une année. Mais moi, le problème, c'est quoi? Je me dis, est-ce que la Constitution n'a pas prévu oui ou non le 26 provinces? Oui. Alors vous me direz, oui, c'était 36 mois, c'était prévu l'instauration. Oui, mais on l'a pas fait. On l'a fait peut-être 5 ans, 4 ans plus tard, mais c'est fait. Faudrait-il avoir oui ou non des gouverneurs? Je crois que la question est oui, on devrait bien avoir les gouverneurs. Quand je regarde la composition des différents candidats qu'on vient de nous présenter, j'ai un sérieux problème. Parce que la plupart des personnes qui ont eu à décrier la qualité, la légitimité des électeurs, de ces gouverneurs, se retrouvent eux-mêmes candidats. C'est ça, en fait, le paradoxe également. C'est
le manque d'honnêteté.
Il faut qu'on le dise.
Notamment à l'opposition.
Oui, notamment, je vois le MLC, je vois le G7. Ils ont passé tout leur temps à dénoncer cela, à décrier cela, à décrier la qualité même des députés provinciaux qui doivent élire. Mais alors, pourquoi vous présentez candidat quand vous pensez que le processus a été déjà biaisé? Donc, vous participez d'une manière ou d'une autre à cette perversion, j'allais dire, de ce processus. Alors, il faut le prendre sur vous. Mais le problème, c'est qu'il est sûr, c'est un fait, la durée de ces gouverneurs, ce sera pour combien de temps? Et si on arrive à organiser les élections provinciales d'ici là, parce qu'il ne faut pas oublier que les candidats sont déjà là pour la députation provinciale, si on se réfère à l'ancien calendrier de la CENI, qui ont déjà payé leur caution, admettons que dans 2 ou 3 mois, on arrive à avoir des députés provinciaux, comment on va faire? C'est vrai qu'il y a ce problème-là, mais je crois que c'est important pour que dans ces nouvelles provinces qu'on ait des gens, parce qu'il y avait quand même ce dysfonctionnement-là, entre d'un côté des hauts fonctionnaires nommés par le gouvernement, donc les commissaires spéciaux, et de l'autre côté, des gouverneurs légitimement élus, même s'ils sont hors mandat, même s'ils ont glissé, comme le diront certains, mais eux, au moins, ils ont été élus. Donc, il y avait quand même ce problème-là juridique qu'il fallait régler, et tant mieux si ça se fait, c'est qui le décrit. Ils diront peut-être qu'ils n'aiment pas la politique de la chaise vide, mais puisqu'ils ont décidé d'y aller, ils doivent le prendre sur eux et accepter et être... J'allais pas dire bon perdant parce qu'on ne connaît pas l'issue, mais assumer les choix qu'ils sont en train de faire.
Merci Baudouin Saïd Mbalanga, éditeur responsable du journal La Tchopo qui paraît à Kinshasa et distribué dans toute la partie est de la RDC. Beaucoup de questions, n'est-ce pas, ont été posées ici. Vous avez suivi Innocent Kavukala qui parle de la légitimité des députés qui doivent élire ces nouveaux gouverneurs. Et vous avez suivi Madame Odia qui parle notamment de la durée des mandats des nouveaux gouverneurs. Il y a aussi les phares. Nous avons suivi dans la revue de presse que nous a présenté Alain Hung, les phares qui s'est interrogé sur les statuts des nouveaux gouverneurs. Votre point de vue par rapport à ces processus?
D'abord, je rectifie la déclaration de mon jeune frère ici pour dire que la démocratie n'a pas
reculé.
Oui, ça fait 25 ans seulement que nous osons évoluer avec de la peine, c'est vrai. Et comme nous aimons le Congo, faisons en sorte que cette démocratie aille de l'avant intelligemment. Alors, il y a eu des couacs dès le départ, en ce qui concerne le démembrement des provinces. La démarche la plus acceptable, c'est celle qui devrait faire ceci. On démembre les provinces. Quatre provinces orientales, n'est-ce pas? On démembre la province. Parce qu'à l'époque, il y avait un gouverneur qui a été élu dans la province orientale. Acte 1, on démembre les provinces. Acte 2, en lieu et place de la suspension du directeur de province, il devait rester sur place pour faire continuer la présence de l'État sur le terrain.
Donc, les hauts fonctionnaires de l'État en province.
À ce moment-là, on ne devait pas se précipiter à nommer des commissaires spéciaux. Il y a une dame qui exerce les fonctions supérieures, c'est ça, qui dit que les commissaires spéciaux sont le gouverneur entre guillemets.
Et alors, à votre avis, à votre avis, pourquoi cette logique qui paraît pertinente, pourquoi cette logique n'a pas été suivie?
Bon, la politique a ses raisons, que la raison même, on ne connaît pas la raison en fait en profondeur.
Mais c'est ça, voilà, est-ce qu'on peut revenir sur la liste définitive qui vient d'être publiée par la CENI?
Nous sommes en train d'accepter
66 candidatures retenues.
Mal, mais nous allons corriger ça rapidement. Comme les commissaires spéciaux viennent de faire 3 mois, ceux-là qui seront élus d'ici le 25 vont également faire 3 mois, parce que nous sommes là pour corriger les erreurs. Que cette démocratie que mon jeune frère a dit qui a reculé, que ça ne pousse pas à reculer. Vous comprenez? D'ici à 3 mois, les gouverneurs là, qui seront élus vont céder la place aux fonctions potables, acceptables par tous. Les députés seront élus et ces députés qui seront élus vont élire à leur tour le sénateur au deuxième degré et les gouverneurs de province, les vrais gouverneurs de province. À ce que je sache, nous devons faire un effort. Notre pays ne peut pas continuer. Moi, je suis un ancien conférencier, vous comprenez? Un jour, dans la salle, Monseigneur Mossègue nous dira... Honorable conférencier, je ne voudrais pas que nous évoluions des irrégularités en irrégularités. Aujourd'hui, nous devons mettre fin à ces petits couacs-là pour corriger les erreurs du passé. Notre pays nous appartient tous. Ce n'est pas le pays de la gauche et de la droite, c'est le pays de des Congolais à
merci.
Part entière.
Merci, Innocent Kaboukala. En attendant que les erreurs soient corrigées, s'il faut se baser, n'est-ce pas, sur la liste définitive publiée ce matin par la CENI, il y a des provinces qui n'ont qu'une candidature unique, comme le Kassai Central, la Lomami. Est-ce qu'il y a dans ces provinces, on ne peut pas dire que les dés sont jetés, que ces candidats seront plébiscités.
Mais c'est clair. Mais c'est clair, papa. Donc, il n'y a rien à dire. On sait très bien que dans ces provinces-là, il y a un candidat unique. Donc, il est d'office gouverneur. Donc, il n'attend que la formalisation. Mais c'est là le regret, cher confrère. Oui, madame. Le découpage est constitutionnel. C'est vrai. Mais en son temps... Mon frère était avec moi dans ce studio lorsque nous en parlions.
Saïlé Malanga.
Oui, mon confrère Saïlé. On estimait qu'à l'époque, le fait d'avoir mis très longtemps, c'était difficile de l'appliquer tel quel. Nous pouvions sursoir momentanément en attendant le moment propice pour pouvoir revenir sur ce que la Constitution avait prévu en termes de découpage et de telle sorte que nous ayons tous les matériaux possibles pour pouvoir construire cette démocratie-là. Mais on n'a pas entendu ça. Voilà pourquoi on est en train de partir d'irrégularité en irrégularité. Et n'espérez pas qu'on peut corriger dans les 3 mois toutes ces choses-là. Non, nous ne faisons qu'accumuler des irrégularités et en même temps, notre démocratie ne fait que souffrir. Et nous continuons à reculer.
Parmi les 66 candidatures retenues, il est dit que la plupart, la grande majorité, c'est des candidats, n'est-ce pas, qui ont été présentés par la famille politique des chefs de l'État. Est-ce qu'on ne peut pas dire que, à travers cette liste, la majorité, n'est-ce pas, manifeste sa volonté de pouvoir contrôler toute la province et à n'importe quel prix?
Oui, mais je ne voudrais pas me dire que je suis influencé par votre question. C'est le constat général de tout le monde. Parce que on sent que l'opposition, du moins l'opposition d'expression Tshisekedi, a rejeté toutes ces choses-là. Elle ne se sent pas concernée. Mais on sent que la majorité veut aller au devant de la scène, en prévision, bien sûr, des autres élections qui vont arriver. Parce que quand on a autant de gouverneurs sur l'ensemble des provinces, on a quand même beaucoup de marge de manœuvre pour pouvoir avoir le contrôle et influencer. Tout ça, ça fait partie des stratégies pour contrôler réellement le futur en ce qui concerne les élections qui devaient arriver.
Merci, Elisée Oudia. Presque tous les candidats retenus sont tous de la majorité présidentielle.
Je ne pense pas que ça soit antidémocratique ou anticonstitutionnel d'afficher clairement ses ambitions. Et il faut le voir, peut-être la manière que vous avez dit, à tout prix.
Ce n'est pas antidémocratique, mais
c'est la démarche qui a été menée,
en amont et qui a semblé choquer certains observateurs. Lorsque la majorité envoie une lettre à la CENI pour dire tel monsieur, nous on ne reconnaît pas ces messieurs-là, vous devez écarter sa candidature, tel autre monsieur, il est membre de notre famille politique. Mais nous ne l'avons pas mandaté, alors que la personne sait qu'elle n'est pas, elle n'appartient plus à la majorité présidentielle. C'est cette démarche qui a été menée en amont qui a posé problème.
On a eu quand même à suivre ce débat-là de bout en bout. Et de part et d'autre, on a eu à nous brandir toutes les lois qui régissent et les partis politiques et la Constitution. Et là, ça pose même un problème au niveau de l'interprétation de nos différentes lois. Et quand vous suivez ces différentes réflexions émises par les uns et par les autres, vous verrez qu'on arrive là, on dit, mais qui a raison et qui a tort par rapport à ce débat autour de la fameuse lettre ou de... Mais là n'est pas le problème. Moi, je dis, quand les différents, ceux qui ont refusé d'y aller, ils sont pas allés. Ils ont dit, ben d'accord, nous, on n'y va pas, on attend les élections les plus importantes. c'est-à-dire la présidentielle et l'élection des députés pro-nationaux. Mm-hmm. Mais pour ceux qui veulent aller, on ne peut pas dire à la majorité, oui, mettez-moi de candidats pour qu'il y ait des candidats également de l'opposition. Et surtout que quand vous avez également parlé du fait qu'il y ait une candidature, la démocratie, c'est le respect de textes mm-hmm. et des procédures. Mm-hmm. Quand c'est le seul candidat qui est là, mm-hmm. qui répond aux normes, qui mm-hmm. répond aux principes, qui répond, je ne sais pas, à toutes les conditions émises et requises, mm-hmm. vous ne pouvez pas reprocher à cette personne-là mm-hmm. d'être le seul et d'être plébiscité à la fin.
Élisée Oudia, au vu de tout ce qui vient d'être fait, il y a eu des réactions, n'est-ce pas? Il y a même les présidents des partis membres du G7 qui ont qualifié, n'est-ce pas, la CENI et la justice congolaise comme étant des institutions qui sont instrumentalisée. Est-ce que cela ne va pas poser des problèmes par rapport à la crédibilité, n'est-ce pas, des institutions qui seront issues de ces processus électoraux?
Je ne suis pas partisane de ceux qui veulent boycotter le processus, mais je me dis deux personnes ne peuvent pas marcher ensemble s'ils ne sont pas d'accord. Mm-hmm. Si vous n'êtes pas d'accord avec la façon de faire de la CENI, alors pourquoi aller aux élections organisées par la CENI? Par exemple, je dis, pour le cas de G7, vous dites que la CENI est inféodée, la CENI est instrumentalisée, mais mm-hmm. pourquoi participer à certains scrutins organisés par cette structure. Il faudra le prendre pour sur vous. Merci. Mais c'est vrai qu'on dira qu'on veut changer les choses de l'intérieur, mais en même temps, il faudrait voir mettre des mécanismes en place, mm-hmm. Voir comment travailler ensemble. Au lieu mm-hmm. de se jeter tout le temps les balles, tout le temps des pics, dire mais comment faire? Je crois que c'est la question que tous les politiques devront se poser. Okay. Comment faire? Parce qu'on a eu ce problème avec Mulunda, mm-hmm. on a eu ce problème avec Malumalu 2006, on a eu ce problème avec c'était ça des pics, non, merci. Il est un féodé. Mais comment faire pour travailler avec ce genre, merci. Quoi qu'un féodé, avoir des résultats escomptés?
Merci, Saïlé Mbalanga. Au-delà de tout ce qui a été dit, incohérence, n'est-ce pas? Comment vous vous entrevoyez la suite du processus électoral?
J'ai confiance dans mon pays, depuis 91 que je suis à la Conférence nationale souveraine, je suis allé au Parlement, je suis dans la profession, j'apporte ma petite pierre à l'édifice. J'ai confiance avec espoir que les autres qui sont en train de tituber puissent nous faciliter la tâche pour que la démocratie qui est née à 91... Forcing, à l'époque, le marché n'a pas cédé facilement.
Le 24 avril 90,
ça a été vraiment un parcours des combattants. Nous avons été à la conférence nationale, mais pour arracher cette démocratie-là, il a fallu que nous résistions,
merci.
Pour arriver là où nous sommes aujourd'hui, mais avec espoir que tout le monde regarde la même direction pour sauver le Congo, papa.
Merci. Malheureusement, on a plus assez de temps, malheureusement. Notre deuxième thème de ce soir, rencontre d'échange hier jeudi à l'hôtel Sultani à Kinshasa, entre le Conseil supérieur de l'audiovisuel et de la communication, c'est ça qu'en sigle, et les patrons de presse, d'après les présidents de cette institution d'appui à la démocratie. La RDC est au seuil de la période électorale. L'apport des patrons de presse permettrait d'accompagner la CENI et le CESAC dans les processus en cours pour des élections crédibles, équilibré et apaisé. Exhorter les patrons de presse de s'impliquer personnellement pour les contenus d'excellente qualité, respectueux du code de déontologie journalistique et des lois de la République. C'est le mobile de la rencontre d'échange entre le Conseil supérieur de l'audiovisuel et de la communication, c'est ça qu'en sigle, et les patrons de presse. Le souci de Christophe Titondombi et de son institution est d'avoir en RDC des médias beaucoup plus responsables. Il est au micro de Jacques-Yves Molima.
Vous savez que quand un média appartient à un particulier, parfois le patron n'a aucune notion d'éthique, de déontologie, ne connaît pas la loi sur l'exercice de la liberté de la presse, mais il peut demander à un journaliste de faire des choses. Les journalistes, bien que connaissant la loi, bien que connaissant les principes, parfois il se soumet, le journaliste il est dans une situation précaire, il se soumet parfois aux dictats du patron. Et après avoir suffisamment parlé aux professionnels, nous avons pensé que maintenant il faut passer à l'étage supérieur et parler maintenant aux patrons, aux chefs d'entreprise pour attirer leur attention sur leurs responsabilités dans les contenus que leurs médias produisent. Quand on veut diffuser son information, quand on veut publier son information, on doit toujours s'entourer d'un minimum d'éthique, d'un minimum de déontologie et voir si cette information qu'on publie respecte la loi qui encadre la profession.
Élisée Oudia, je rappelle que vous êtes journaliste à Congo Web Télévision, émettant des Kinshasa. Comment vous analysez cette démarche du CESAC?
J'allais dire la routine, c'est du déjà entendu, du déjà vu. C'est un peu ce qu'on disait au début de l'émission avec les femmes. Voilà, on reprend les mêmes choses, mais sur le concret, il n'y a rien qui est fait. Mais je crois qu'on est en train de s'éloigner. Le combat actuellement pour les médias traditionnels, c'est avec les nouvelles technologies, c'est avec les réseaux sociaux. Et c'est là où on doit se concentrer. C'est bien beau de parler. On donne un exemple et je crois que c'est l'exemple actuel. Permettez-moi, je sais que c'est un exemple qui a quand même frisé la sensibilité de certains. La fameuse photo publiée sur Facebook de Malou Malou. Tout le monde décriait cela, mais nos médias traditionnels en est venu bien après pour essayer de commencer à réagir, savoir si c'était vrai, si c'était faux, si c'était... Et pendant ce temps, ce sont les réseaux sociaux qui sont en train de nous damer les pions. Je crois que c'est là où qu'on doit situer le combat d'éthique, la déontologie. Mais oui, on doit faire face avec. On doit adapter l'enseignement ici au pays par rapport à ça, par rapport à ce réseau social. Faut plus commencer à nous faire... Moi, je me rappelle toujours qu'il y avait un prof, Ali Fassi, qui me disait, qui revenait sur les mêmes exemples depuis 10 ans, qui nous disait toujours qu'on présentait le journal télévisé assis, mais alors qu'en 2013 ou 2016, on pouvait constater que le journal télévisé peut se présenter également debout. Alors, faut pas revenir sur ça. Il faudrait composer avec. Pas et devenir ennemi de ce réseau social. Comment faire? Je crois que ça devrait être le combat des médias congolais. Comment faire pour composer, faire avec ces réseaux sociaux? Ailleurs, ils l'ont compris. Suivez toutes les chaînes. Je ne vais pas les citer ici, mais les chaînes étrangères. On vous dira que peut-être après une édition de 10 minutes, de 15 minutes, de 20 minutes, on vous dira que l'info continue en ligne. Parce qu'on se rend compte de plus en plus, si on arrive à rien faire, à composer, à ne pas composer avec ces médias, ces réseaux sociaux, on va tout droit vers la disparition de nos médias traditionnels. Alors que nous, on est une force, nous, on a la possibilité, je crois que ces chaînes étrangères ont arrivé à comprendre cela, parce que nous, en tant que journalistes formés, professionnels, on a la possibilité, la capacité, la rapidité d'ailleurs, d'avoir l'info, de traiter, de diffuser et de donner aux téléspectateurs ou à nos auditeurs ou à nos followers des informations vérifiées et vérifiables d'un coup. Mais alors que si on le laisse comme ça, ça devient un problème. Et je crois qu'aujourd'hui en RDC, on doit, les médias traditionnels, nous devons et avons l'obligation de composer avec les réseaux sociaux. Et quand c'est ça qu'ils ne peuvent pas, je crois que nos journalistes disent respecter.
Et donc, vous voulez dire qu'il y a une évolution considérable, n'est-ce pas, dans ces domaines des médias et que les efforts que doit fournir la RDC, c'est ceux et qui lui permettent, n'est-ce pas, de se conformer à cette évolution.
Mais et évidemment, on n'a pas d'autre choix que de nous conformer parce qu'il y a, on est tellement en retard par rapport aux autres qu'on doit faire avec et essayer de rattraper son retard et le combler.
Innocent Kabuka, la journaliste indépendant évoluant à Kinshasa, vous avez suivi le président de CESAC, M. Christophe Titon Ndombi, qui a soulevé un aspect important, c'est la précarité dans laquelle travaillent les journalistes congolais et qui les rend quelque peu, enfin qui les rend vulnérables et impuissants face aux différentes pressions qui émanent soit des patrons des presses, soit de la société elle-même.
C'est une vérité et madame a essayé de l'épingler autrement. Pourquoi nos médias ne suivent pas la marche, l'évolution de la technologie aujourd'hui? C'est simplement parce que dans nos médias nous manquons. Nous n'avons pas les moyens nécessaires pour pouvoir faire face à tout ça, même si on n'est pas là pour citer les autres médias, mais
et
on sait quand même
ça,
voir...
C'est ça la question fondamentale.
Oui, c'est la question fondamentale. C'est pour cela que, je comprends pourquoi madame dit que c'est du déjà entendu. Oui, la question de la précarité a déjà été soulevée il y a longtemps. Moi, je me souviens, je crois que vers les années 2005 ou 2006... alors que nous étions en train pratiquement de parachever la transition, et le mec avait organisé, je crois que c'était des journées portes ouvertes, et ces questions ont été également soulevées. Mais entre 2005 à aujourd'hui, ça fait pratiquement 11 ans qui sont passés, mais qu'est-ce qu'on a fait dans ces 11 ans pour pouvoir progresser? Pratiquement rien. Donc, nous sommes.
Et donc, en d'autres mots, au lieu de passer le temps à demander, n'est-ce pas, aux journalistes de se conformer à l'éthique et à la déontologie journalistique, et il faut beaucoup plus, n'est-ce pas, voir comment améliorer les conditions de travail des journalistes.
C'est cela. Mais le problème, c'est que le président du CESAC lui-même, il est conscient de cette situation. Vous allez voir que le problème se situe au niveau du contexte général de notre pays. Notre pays ne nous donne pas la possibilité d'évoluer comme tel. Parce que à l'époque, d'ailleurs, on parlait des patrons de presse étaient pour la plupart des cas des hommes politiques. Et donc, ils en faisaient
à leur tête parce qu'ils pensaient qu'il fallait répondre à travers des médias. Selon que tel se sent attaqué dans un média X, alors on utilise les journalistes qu'on considère comme ses pions, hein, qu'on pouvait envoyer pour pouvoir réagir à tout moment et tout ça. Donc il y a un problème d'indépendance du fait seulement de cette précarité. Donc nous n'avons pas des médias réellement forts et qui sont libres, qui sont dans leur indépendance et qui peuvent apporter quelque chose au niveau de la démocratie. Nous sommes pris dans ce piège-là, malheureusement, et on est comme un peu essoufflé. Mais ce qu'il faut faire, c'est peut-être espérer d'autres actions que nous pouvons mener. C'est par exemple, lorsque les acteurs que nous sommes, nous-mêmes journalistes, lorsque nous sommes employés dans ces médias, est-ce que nous pouvons peut-être créer une espèce de chaîne de solidarité parmi nous pour pouvoir mener cette lutte par rapport à cela? Parce qu'en fait, si nous suivons bien la logique du président du CESAC, on dirait qu'il voulait tendre vers là. Parce que il faut que les journalistes eux-mêmes prennent conscience, fassent une espèce d'opposition par rapport aux promoteurs de ces médias-là, selon que c'est un personnage politique. Mais on s'en fout de ses convictions, mais on essaie de faire le travail dans les règles de l'art.
Merci, Saïd Malanga. Je rappelle que vous êtes éditeur responsable du journal La Tiopo qui paraît à Kinshasa et distribué dans toute la partie est de la RDC. Innocent Kaboukala évoque un aspect important, c'est la solidarité entre journalistes. Il y a des observateurs, n'est-ce pas, qui estiment que nous sommes le quatrième pouvoir, mais apparemment, nous, journalistes, ne sommes pas conscients de ces faits-là parce que nous n'utilisons pas suffisamment, n'est-ce pas, notre position, notre pouvoir pour faire des revendications. Nous sommes les porte-voix, n'est-ce pas, de tous les secteurs. Quand ils ont des problèmes, des revendications, ils passent par nous et nous, on relaie leur message. Mais la presse est traitée en parents pauvres dans ces pays depuis toujours, mais les journalistes n'ont jamais utilisé ces pouvoirs, n'est-ce pas, pour revendiquer les droits. Comment vous comprenez cette attitude des journalistes congolais?
Avant de répondre à votre question, je vous dis qu'un jour, j'étais chez mon bureau, et après avoir fait le travail de routine, tout, après avoir lu les magazines étrangers, etc., même les journaux locaux, et je suis tombé sur un documentaire où j'étais content de ce documentaire-là. Et il y a un journal japonais, que j'étais le nom, qui produit au quotidien 90 millions d'exemplaires, au quotidien, donc chaque jour. Mon frère, vous voyez la rédaction, c'est comme ici, à partir de l'Okapi jusqu'au sous le boulevard, hein, ça c'est la rédaction, où chaque journaliste bien vêtu, cravate, chemise propre, une dame bien vêtue, etc., travaille devant son écran. Et à l'extérieur, tout le monde est presque véhiculé. J'ai eu les larmes aux yeux.
Alors, comment les journalistes congolais doivent faire, n'est-ce pas, pour qu'il atteigne ces niveaux, avec le quatrième pouvoir qu'il a?
Je ferai toute une culture, hein, parce que dernièrement, hein, Mouzet Laurent de Gazekab, la paix en son âme, avait remis $1 million à la presse de Kinshasa pour que nous puissions nous partager équitablement. Mais ça a été l'hécatombe. Nous ne nous aimons pas. $1 million. Ça n'a pas été distribué. Moi, j'ai été appelé, et c'était très important.
Nous, j'étais appelé
à la rescousse, et heureusement que l'argent que moi j'ai eu, j'avais eu $600,000 de rescapés. J'ai payé presque tout le monde, les derniers a eu $700. Et j'étais un homme à abattre. Nous ne nous aimons pas.
Merci,
la précarité dont on parle, ou la précarité, c'est vrai. Je ne peux pas manquer.
Merci, Saïd Mbalanga. On a compris. Elisa Ovia, que faut-il, n'est-ce pas, pour permettre aux journalistes congolais, dans ces contextes socio-économiques difficiles,
justement,
de relever les défis en termes de.
C'est un paradoxe. Donc, le journaliste congolais lui-même ne pas en dehors de ce contexte politico-social que vit la RDC. Tant que la RDC ira mal, il ne faut pas vous attendre à quelque chose. Il ne faut pas s'attendre à ce que le journaliste RD congolais Non. C'est-à-dire, l'évolution des médias, l'évolution des journalistes en tant qu'être humain va de pair avec l'émergence ou l'évolution également de la société congolaise.
L'évolution des médias va de pair avec l'évolution de la société congolaise. Innocent Kaboukala, ça sert à votre conclusion.
Oui, je soutiens en fait l'idée de Élisée. Et je persiste sur la création d'une chaîne de solidarité au niveau de nos différents médias pour pouvoir faire face à cette situation-là. S'il faut que des journalistes soient chassés par tous les médias, pourvu que ces médias se taisent, ne serait-ce que pour que les règles de l'art soient respectées dans notre profession, il faut le faire.
Salim Malanga, une chaîne de solidarité, vous avez dit que les journalistes ne s'aiment pas.
c'est possible avec des confrères consciencieux,
merci.
Respectables et serviables.
Merci, merci, c'est la fin de cette émission. Merci à Diadioné Nyangasa qui était la technique. Et merci à Alain Irung qui a coordonné et réalisé cette émission sous la supervision de Julien Nyamouni. À la présentation, Guy Maté. Merci et bon week-end sur Radio Okapi.